CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 50e épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Les vacances étaient bonnes ?
Très bonne.
Ah, tant mieux, moi aussi, regarde comme je suis bronzé. Alors, pour fêter ce 50e épisode, on va parler d'un entrepreneur français. Et surtout, un nom de famille qui est complètement indissociable de sa marque de magasin révolutionnaire. Aujourd'hui, on vous raconte le parcours d'Édouard Leclerc et de son innovation dans le monde de la distribution.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Édouard Leclerc est né en 1926 à Landerneau.
Oui, donc une petite ville de Bretagne, hein, près de Brest, dans une famille très nombreuse, 15 enfants, il est sixième d'une famille de 15 enfants, une famille agricole, très catholique, hein, ça va être important pour le reste de sa vie, très traditionnelle dans sa façon de voir les choses.
Très pieuse, quoi.
Très pieuse, oui. Avec son père qui a une trajectoire un peu particulière, puisqu'il est agrégé de lettres, donc très diplômé, hein, à l'époque, être agrégé.
Instruit.
Hein. Voilà, il y avait peu de gens qui avaient fait des études supérieures. Et qui pourtant avait décidé d'être paysan, petit paysan même, alors qu'il aurait probablement pu suivre d'autres carrières. Et donc, c'était un modeste paysan des environs de Landerneau. Toute la famille aidait au champ, parce que c'était une petite exploitation qui vivait difficilement. Donc voilà, c'est une enfance rurale et assez austère. Il y avait peu de vacances, peu de divertissements. C'était le travail, la religion, donc un environnement assez particulier.
Donc l'agriculture ou la religion, c'est un peu les deux directions que vont embrasser les enfants en termes de carrière.
Oui, c'est un peu les carrières toutes tracées. Donc, soit devenir agriculteur. Il y a plusieurs frères qui deviendront prêtres, curés. Donc, Édouard Leclerc, d'ailleurs, lui aussi, hein, fréquentera le séminaire et envisagera, ou en tout cas, ses parents envisageront pour lui une carrière plutôt ecclésiastique. Mais lui a un tempérament un peu différent et son truc, c'est le commerce. Alors, c'est pas trop dans la tradition familiale où on est à la fois dans la religion et dans l'agriculture. Mais lui a une idée, une ambition dans le commerce. Et donc, il va pas suivre le destin qui était un petit peu qui était tracé par son milieu familial et va ouvrir un petit négoce de commerce en gros alimentaire en Bretagne.
Donc il va devenir grossiste en 1949. Il est aidé un peu par sa famille pour acheter un camion pour devenir grossiste.
Oui, voilà, il achète donc une petite camionnette avec des petits prêts de sa famille. Mais enfin, c'est une affaire très très modeste. Hein. Il y a sa maison sert d'entrepôt. Il a sa camionnette et il est grossiste pour, on va dire, les écoles, les entreprises, les colonies de vacances de la région. Donc il essaie de vivre comme ça, de gagner sa vie au volant de sa camionnette.
Mais ça marche pas trop.
Ça marche pas trop. Le marché est déjà un peu pris par des acteurs établis qui ne voient pas forcément un très bon oeil.
C'est qui ce monsieur avec ce camion-là ?
Ce presque curé qui arrive avec son camion. Donc on lui met plutôt des bâtons dans les roues. Donc cette activité-là ne prend pas trop. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il change un peu de braquet et il se dit je vais vendre mes produits non pas en grossiste auprès des clients, mais dans ma cuisine. Je vais ouvrir une sorte de magasin dans ma cuisine et un magasin d'un genre particulier. Parce qu'il va vendre très peu de produits et à prix cassé. Donc, c'est un peu d'une certaine façon, c'est un peu aussi le précurseur du hard discount. Hein. On retrouve ça chez Aldi, cette façon de faire, c'est-à-dire très peu de produits pour acheter en gros, pour limiter au maximum les coûts de mise en rayon, les coûts de tout ce que vous voulez, avec un service client minimum ou quasiment inexistant. Donc lui, il se spécialise dans les biscuits bretons, hein, on est à Landerneau, donc il n'y a pas de secret. Et donc voilà, très peu de produits à prix cassé, avec l'idée de se dire, j'étais avant grossiste, donc j'étais un intermédiaire, j'étais un coût peut-être inutile, je vais casser l'intermédiaire, je vais vendre directement. Au client final, en fait.
Donc, le but, c'est quand même de faire des produits moins chers, donc pour que ça marche mieux, mais aussi pour faire des produits moins chers. Il est dans sa cuisine, donc c'est un peu le garage de la Silicon Valley, sauf que là, c'est sa cuisine. C'est sa femme qui aide donc du coup au magasin. Est-ce que ça marche ce magasin au début ?
Alors ça marche pas mal. Alors c'est pas le succès foudroyant. Les prix sont à peu près 30% moins chers qu'ailleurs.
Ah oui.
Donc ça attire quand même une clientèle. Alors une clientèle qui est un peu qui vient un peu en cachette parce que
le magasin doit être discret.
Voilà, le magasin doit être discret parce que aller acheter donc chez Leclerc, chez ce premier magasin Leclerc, c'était un peu ça renvoyait un signal de pauvreté. Ça,
on va acheter moins cher.
Voilà, on va acheter moins cher. Donc, c'était pas forcément très, très bien vu socialement, disons. Mais bon, les prix sont suffisamment attractifs pour que ça fonctionne.
Et c'était pas bien vu aussi par les autres grossistes.
Alors, c'était pas bien vu par les autres grossistes. Et Édouard Leclerc, une de ses tâches qui va être un des obstacles pendant très longtemps de Leclerc, c'est d'arriver à se faire fournir, en fait, à se faire livrer.
Ah oui.
Parce que les autres distributeurs établis font pression sur les industriels pour qu'ils ne vendent pas à Leclerc pour essayer de l'asphyxier, en fait. Et ça va être un problème récurrent de Leclerc. Donc lui, il va sillonner les routes pour essayer de trouver de quoi s'approvisionner pendant que sa femme tient la boutique. Et bon, ce premier magasin marche à peu près. Alors au début, il est dans sa cuisine, donc très rapidement, ça suffit pas. Il construit une espèce de petit hangar en moellon, donc toujours très discret parce
ouais.
qu'il faut, il faut
pas de fenêtre.
Voilà, pas de fenêtre. Alors déjà, ça limite les coûts de construction. Et puis en plus, il faut les clientes surtout veulent pas être vues. Donc c'est un peu paradoxal. On va acheter ses biscuits Leclerc presque discrètement, presque honteusement en fait.
Et en plus, à l'époque, il a juste une licence de grossiste, donc normalement, il peut pas vendre au client final.
Oui, alors il est toujours officiellement grossiste, ce qui fait qu'en fait, il émet une facture à chacun de ses clients.
comme si c'était des revendeurs.
Comme si c'était des revendeurs, d'accord. En fait, puisqu'effectivement, il est légalement grossiste, hein, c'était le début de son métier, et donc il n'a pas droit, théoriquement, de vendre au client final. Donc il y a un peu cette petite, on va dire, combine administrative pour rester dans les clous de la légalité.
Donc tu le dis, ça fonctionne assez au début pour que ça donne des idées de développement.
Oui, donc ça commence à prendre un petit peu. Il y a quelques journaux locaux qui s'intéressent à ce nouveau magasin. Donc il a un petit peu de pub par le bouche à oreille. Et donc ça commence à prendre un petit peu. Et donc il décide effectivement de se développer, de lancer d'autres magasins. Alors sur un modèle un petit peu particulier, parce que Leclerc, c'est une coopérative. C'est-à-dire
d'accord.
que, contrairement par exemple à Carrefour, hein, qui est une entreprise plus traditionnelle, c'est pas lui, l'entreprise Leclerc, qui va ouvrir un autre magasin, c'est un nouveau membre de la coopérative naissante qui va ouvrir son propre magasin. Alors après, avec un nom commun, mais géré en commun. C'est pas une relation hiérarchique où Leclerc dirige tout et décide, ben voilà, j'ouvre un magasin là, je lève les capitaux qu'il faut et c'est mon magasin.
C'est un indépendant qui va le faire de son côté.
Voilà, qui va le faire de son côté, mais au sein de la coopérative Leclerc. En fait, c'est un modèle coopératif. Tous les nouveaux magasins ouverts le sont par des adhérents de cette coopérative, alors qu'ils cotisent pour les frais communs de la coopérative, mais du coup, après, qu'ils prennent part aux décisions. Les décisions sont prises de manière collégiale. Hein. Chacun a droit de vote dans les décisions. Et Leclerc n'est que le dirigeant de cette coopérative. Mais si les membres de cette coopérative décidaient de l'évincer, ils pourraient le faire. Lui n'a que son magasin de Landerneau.
Ils pourraient mettre d'autres personnes à la tête, oui. Et c'est pas comme de la franchise, puisque la franchise, on paye des droits pour avoir le droit d'utiliser le nom de franchise. Là, on travaille en coopérative, on fait juste fonctionner le nom ensemble.
Oui, la franchise, le franchisé n'a pas vraiment son mot à dire sur la gestion de la marque. Par exemple, un restaurant McDonald's en franchise, le franchisé, il a le droit d'utiliser la marque McDonald's en échange de payer une redevance, mais il ne participe pas à la gestion de McDonald's. Disons, le contrat de franchise lui est un petit peu imposé, c'est ça ou rien. Alors que là, c'est vraiment une relation, disons, plus égalitaire peut-être, où chaque membre participe à la prise de décision.
Mais ça fait moins d'argent pour Édouard Leclerc.
Alors, ça fait moins d'argent, au sens où, oui, vu qu'il ne détient pas l'ensemble de ses magasins, il ne peut pas se construire une fortune colossale. Et là, on retrouve le côté catholique, puisque la religion est très imprégnée en lui, et la religion catholique est souvent, traditionnellement, assez hostile à l'enrichissement. Donc, lui voit l'enrichissement de manière plutôt péjorative. Donc, dans cette organisation coopérative, sa culture religieuse explique probablement pour partie ou entièrement cette stratégie en fait coopérative plutôt qu'une entreprise plus concentrée, plus habituelle en fait. Alors les détracteurs diront que c'est un bon moyen de faire sa pub, le côté moine, voilà, moine commerçant, on lui a un peu fait cette critique de dire tu te prétends être une sorte de l'abbé Pierre du commerce pour te faire bien voir dans les médias. Alors, c'est peut-être un peu vrai aussi. On ne sait pas exactement quelle est sa vision, mais voilà, ces racines catholiques, en fait, se rejaillissent dans sa manière de diriger l'entreprise.
En tout cas, l'idée d'être en coopérative et l'idée de vendre moins cher aux clients, c'était plutôt de bonnes idées dès le début, même si ça a quand même attiré des critiques et même au sein du réseau, il y a des adhérents qui n'étaient pas contents.
Oui, alors il y a eu des dissensions. Hein, donc, pour refaire un petit peu la chronologie, donc en 1955, il y a un deuxième magasin qui ouvre, un ancien ami qui ouvre un deuxième magasin.
Qu'il avait rencontré au séminaire.
Voilà, un ami d'enfance, d'école, enfin de longue date. De la fin des années 50, il y a déjà 25 magasins. Et en 58, il y a le premier magasin en dehors de Bretagne, à Grenoble. Et puis après, il y aura des...
C'est vraiment loin.
Voilà, c'est vraiment le bout de la France, pour le coup. Après, ça va s'aimer dans toute la France et même dans d'autres pays européens. Et évidemment, cette coopérative où tout le monde a un petit peu son mot à dire, ça ne va pas sans certaines frictions. Et notamment, Intermarché, qu'on connaît tous, la chaîne Intermarché, c'est né d'une rupture de Leclerc. En fait, à la base, c'était des membres de cette coopérative Leclerc qui, à un moment donné, ont été en désaccord avec la direction et sont partis et ont créé leur groupement Intermarché.
On peut quasiment dire que Intermarché, c'est des enfants de Leclerc, quoi.
Oui, c'est des enfants, oui, ou en tout cas, c'est une scission de Leclerc.
Donc, ça peut avoir des critiques au sein du réseau d'adhérents, mais aussi, évidemment, des critiques et des attaques des autres commerçants.
Oui, alors, il y a eu une bagarre dans les années 50, 60, même 70. Hein. Aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu préhistorique, parce que la grande distribution a plié le match, et aujourd'hui, c'est plutôt elle qui est concurrencée par Amazon et d'autres types de distribution. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les années 50-60, quand Leclerc commence à s'étendre dans toute la France, hein, c'est le précurseur de la grande distribution en France, hein, Leclerc. Carrefour, hein, Marcel Fournier, a plutôt suivi Leclerc.
Quasiment presque copié.
Oui, presque copié. Et il s'est lancé à Annecy parce qu'il a vu que Leclerc commençait à ouvrir, on a dit à Grenoble, qu'il avait un projet de supermarché à Annecy. Il s'est dit, il faut que je me lance, sinon Leclerc va prendre la place. Donc, c'est vrai, en France, c'est vraiment Leclerc, le précurseur de la grande distribution. Et avant, on était sur un mode de distribution très traditionnel. C'était des petites boutiques dans les petites villes, les villages, où on vendait peu de produits, où on demandait aux vendeurs de nous choisir les produits derrière son comptoir. C'était pas du tout la même organisation. Et donc, on va dire ces petits commerçants ont vu d'un très mauvais œil l'arrivée de Leclerc, qui évidemment proposait des prix plus bas, dans des grands rayons, avec plus de choix, etc. Et donc il y a une bataille, même politique, hein, avec Pierre Poujade notamment, où il y a eu une rivalité très forte entre les défenseurs du petit commerce qui disaient mais les grandes surfaces type Leclerc, vous allez générer des vagues de chômage et de faillite dans les petites villes, dans les villages. Et les partisans de Leclerc qui disaient « Oui, mais les prix sont moins chers, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat. » Et évidemment, dans ce genre de situation, c'est le pouvoir d'achat qui l'emporte. Oui. Et c'est la grande distribution, petit à petit, hein, malgré les réticences politiques de Poujade, de la Sidounati, hein, qu'aujourd'hui plus personne ne connaît, mais qui était un syndicat des petits commerçants très puissants dans les années 70. Voilà, le rapport qualité-prix et la facilité aussi d'aller faire ses courses que proposait la grande distribution était tellement plus favorable que le petit commerce que petit à petit le petit commerce a périclité.
C'est de là que vient le poujadisme.
Voilà, le terme poujadisme vient de Pierre Poujade, qui, à la base, le poujadisme, c'est la défense des petits commerçants contre la grande distribution des centres, donc contre Leclerc, en fait.
C'est un peu le côté conservateur qu'il y avait...
Oui, c'est vrai que le terme poujadisme aujourd'hui a dépassé la question du commerce, mais c'est un peu ça, c'est un peu la défense des petites gens contre, on va dire, les élites. On retrouve un petit peu ça dans les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes, il y a un côté poujadiste, en fait, dans ce mouvement.
Et il y a même eu des attaques qui étaient un peu limites, qui attaquaient peu en dessous de la ceinture presque.
Alors, des fois même, c'en est venu aux mains, hein. Il y a eu des vraies bagarres. On a essayé d'attaquer Leclerc sur son passé pendant la guerre, parce qu'il aurait eu des sympathies avec certains occupants allemands. Alors, Leclerc a gagné ses procès en diffamation, Édouard Leclerc, mais c'est vrai qu'il y a... il y a eu des attaques récurrentes, donc on, voilà, dans quelle mesure elles étaient fondées ou pas.
Il y a eu des zones d'ombre et ils ont attaqué là-dessus, quoi.
Voilà, il y a eu quelques zones d'ombre pendant la guerre, et évidemment les détracteurs de Leclerc s'en sont servis pour leurs attaques. Mais il faut voir que dans les années 60, De Gaulle était plutôt un partisan de la grande distribution pour les questions de pouvoir d'achat.
Oui, petit coup, voilà, coup de pouce de De Gaulle quand même.
De Gaulle était plutôt favorable en disant, bah voilà, il y a de l'inflation, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, donc la grande distribution, c'est plutôt favorable. Il y a eu, en 1960, la circulaire Fontanet. Il faut voir, on en a parlé, hein, mais qu'avant, le gros souci de Leclerc, c'était de se faire approvisionner, puisque les syndicats de commerçants, on va dire anciens, établis, disait aux industriels, si vous livrez Leclerc, nous on ira se fournir ailleurs, et donc il y avait une pression qui était mise pour ne pas foutre un Leclerc, pour essayer d'asphyxier Leclerc, et la circulaire Fontanet en fait va d'un point de vue légal interdire, si on schématise, interdire le fait de refuser de livrer, en fait, à partir du moment où un client paye, il doit être livré, donc ça a aidé Leclerc. Et après il y a eu la loi Royer en 73 qui elle était pencher plutôt en faveur du petit commerce, dans le sens où on essaie de limiter le développement de la grande distribution.
Oui, parce que là, ça avait vraiment commencé à exploser. Donc du coup, il fallait limiter peut-être un peu.
Oui, alors est-ce qu'il fallait limiter, ou est-ce que c'est le lobbying des commerçants qui a réussi ? Je ne sais pas exactement, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la réglementation, le rouleau compresseur de la grande distribution, il peut être freiné par des lois, mais en fait il va continuer, il va réussir, et d'ailleurs pas que en France, hein, dans tous les pays, le rapport qualité-prix de la grande distribution était tel par rapport au petit commerce que au fil du temps il s'est imposé, quelle que soit la législation.
Et on peut dire que petit à petit c'est donc la grande surface qui va réussir à s'imposer grâce à l'idée de base de Leclerc, qui était de faire économiser ses clients.
Voilà, c'est l'idée de dire, ben, on va couper un intermédiaire. Donc dans le petit commerce, c'était le vendeur qui servait chaque client. On a totalement oublié ça, mais avant, le fait de servir soi-même pour mettre le produit dans son caddie, c'était complètement impensable. On disait au commerçant, je veux tel produit, et donc le commerçant allait prendre le produit et vous le donner. Donc évidemment, ça faisait une tâche supplémentaire, un coût supplémentaire. Et donc Leclerc et la grande distribution, il n'y a pas que Leclerc, il y a les frères Albrecht en Allemagne, il y en avait d'autres aux États-Unis, ils se sont dit, ben on va casser ça. En fait, on va faire travailler le consommateur, puisque c'est lui qui va prendre le produit là où avant, c'était le commerçant qui lui prenait, et ça a permis de casser les coûts.
On voit un peu le même phénomène actuellement dans ces mêmes grandes distributions, où on élimine petit à petit les caissières.
C'est un peu ça. On fait travailler plus le client qui passe ses articles en caisse, et du coup, ça permet une baisse des coûts, et on peut l'espérer pour le consommateur, une baisse des prix.
En 2006, Édouard Leclerc est remplacé par Michel Édouard, son fils.
Voilà, donc ça reste une entreprise incarnée par les Leclerc. Donc aujourd'hui, c'est Michel-Édouard Leclerc. C'est une entreprise qui est toujours très liée à la personnalité, hein, du fondateur. On voit beaucoup Michel-Édouard Leclerc dans les médias défendre le pouvoir d'achat, ceci, cela. Bon, comme pour son père, beaucoup de gens disent qu'il joue de sa présence médiatique et de ses coups de gueule sur le pouvoir d'achat pour faire sa pub, ce qui est peut-être un peu vrai. Mais voilà, on reste sur une entreprise avec des racines bretonnes, familiales, une culture d'entreprise en fait très forte, très marquée et incarnée toujours par un membre de la famille.
En 2012, le E de E Leclerc, à savoir Édouard, décède.
Oui, et voilà, Édouard Leclerc décède, qui était, donc on le rappelle, hein, le patriarche de la grande distribution française. Hein, c'était le pionnier. Carrefour, Auchan et tous les autres, en France, en tout cas, seront des suiveurs de Leclerc. Donc on lui doit la paternité en France de la grande distribution.
Mais Leclerc lui survit.
Leclerc survit, reste un des principaux circuits de grande distribution en France. Un petit peu en Europe, même si c'est une entreprise qui s'est moins internationalisée que par exemple Carrefour ou Auchan, qui eux se sont plus projetés dans le monde entier en fait.
Mais c'est aussi parce que c'est une coopérative et qu'ils ne sont pas en bourse. Enfin,
alors
voilà.
Peut-être que le côté coopératif rend l'internationalisation plus difficile. C'est plus difficile parce qu'après, il faut s'organiser aussi, hein, dans une coopérative. Si vous avez des magasins en Chine, au Brésil, aux États-Unis, etc., la gestion coopérative peut éventuellement freiner l'internationalisation.
En tout cas, tu l'as dit, c'est un parcours ponctué de réussite qui sera donc copié et qui imposera en France un nouveau mode de distribution. Merci Sylvain.
Merci à toi.
Je rappelle que cette histoire, Sylvain, elle est tirée de ton livre « Les entrepreneurs de légende français » qu'on peut retrouver chez les éditions Hendrik B. Merci à tous de nous écouter, évidemment, de nous partager. Vous n'hésitez pas à le faire. Hein. Si vous avez aimé cet épisode, vous allez écouter les anciens. Et puis vous partagez, ça nous fera plaisir. Vous mettez des likes un peu partout, vous pouvez, des 5 étoiles et tout. Ça, ça nous fait plaisir. Vous pouvez écouter, évidemment, tous les anciens épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio. Vous pouvez vous y abonner. Et vous pouvez les écouter aussi sur CDI Podcast ou sur coricat.com. On vous remercie et on vous dit à très vite.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.